Vous écoutez
RMC. Les histoires du week-end.
Avec Peggy Broche, Margot Bourdin et Stéphanie Rock, je commence par Stéphanie qui a un nouveau coup de gueule ce matin. Parce que c'est vrai qu'on attendait les prises de position, les engagements très forts avec cette Coupe du Monde, parmi les joueurs, parmi les équipes engagées. Est-ce que finalement c'est un mondial particulièrement engagé ou pas? Pas vraiment, Stéphanie.
Alors, il y a eu les pays nordiques représentés par le Danemark qui est le seul représentant qualifié pour cette compétition, qui a porté un maillot noir en signe de deuil pendant l'échauffement du premier match. On a vu d'ailleurs l'ancienne première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt se rendre au stade avec une robe aux couleurs arc-en-ciel. On a vu les Anglais mettre un genou à terre. On a vu les Iraniens refuser de chanter leur hymne et les Allemands se mettre la main devant la bouche en signe de censure lors de leur premier match. Bien sûr, les combats des uns et des autres ne partent pas sur les mêmes questions, mais cette compétition sportive est un véritable catalyseur de révolte. On reproche souvent aux sportifs de ne pas prendre position. Et là, Mathieu, ils le font. Ils s'engagent. Alors, quelle réponse apporte la FIFA à ces prises de position? Ils ont tenté de calmer la grogne, entre guillemets, en autorisant un brassard et un message par match. Donc, fini le fameux One Love. On autorise pour le premier match Football Unite the World. Alors, pour ceux qui ne sont pas bilingues, le foot unit le monde. C'était le brassard notamment porté par le capitaine des Bleus. On aura droit, je vous fais un petit florilège, hein, pour les prochains matchs à Save the Planet, Protect Children ou encore le virulent, très virulent No Discrimination. On croirait entendre un concours Miss France. On a vraiment la sensation que la FIFA a tenté de noyer le message du brassard initial One Love qui était censé parler des discriminations, notamment des communautés LGBT. On attend de voir ce que feront les Danois aujourd'hui pour la France. On le sait, Hugo Lloris, le capitaine a déjà déclaré suivre l'avis de son président Noël Le Graët. Il préfère se plier aux règles, pour reprendre son expression. Mais est-ce qu'on peut se plier aux règles en décidant de montrer sa désapprobation envers un régime qui discrimine et torture les communautés LGBT et qui a laissé, faut-il le rappeler, au moins, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, 6500 ouvriers venir mourir sur les chantiers et les infrastructures. Alors, si on ne porte pas un brassard, on peut porter des crampons aux couleurs LGBT, on peut porter un maillot. Certains le font. C'est vrai qu'on attend l'équipe de France pour des prises de position un peu plus virulentes.
Certains s'engagent, ils pourraient encore plus s'engager. L'équipe de France est l'une de celles qui s'engagent le moins. Est-ce que vous le regrettez, d'ailleurs, que nos Bleus ne portent pas l'engagement haut et fort? 32-16 si vous souhaitez réagir. Ce matin, beaucoup plus léger, Marco Bourdin, les décorations de Noël à la maison. On s'y met quand?
Eh bien, c'est la grande question rituelle chaque année. On se la pose tout le temps. Est-ce qu'on attend la dernière minute? Est-ce qu'on s'y met dès maintenant? Eh bien, ce matin, on a enfin une réponse grâce au site britannique du HuffPost. Figurez-vous que la bonne date, c'est demain, Mathieu, dimanche 27 décembre. Oui, car nous sommes demain le quatrième dimanche avant Noël, le début de l'Avent. Ça, c'est ce que dit la tradition. Mais chacun a son rituel. Il y a ceux qui attendent le 1er décembre pour coller à l'ouverture de la première fenêtre du calendrier de l'Avent. Dans l'Est de la France, la tradition veut qu'on attende le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Vous, autour de la table, vous attendez le dernier moment? Vous y mettez
demain? Je suis en train de me demander, je sais pas. Ouais, soit ce week-end, soit celui d'après.
Oui, pareil, je préfère celui d'après. Bon, en tout cas, sachez que ça fait du bien au moral. Une personne sur deux dit que décorer sa maison pour les fêtes remonte le moral parce qu'on sécrète de la dopamine.
Moi, j'adore ressortir les guirlandes, les petites...
Vous faites le sapin ?
Bien sûr que je fais le sapin, évidemment, je vais l'acheter. Oui, je mets des arbres morts chez moi, oui.
C'est fou. Mais vous allez les replanter après.
Bien sûr. Peggy Broche, vous nous présentez ce matin la plus vieille chatte du monde.
Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Flossie, forcément, un chat britannique qui va avoir dans quelques jours, écoutez bien, 27 ans.
Combien ?
27 ans, selon le livre, oui, Guinness des records, c'est le plus vieux chat au monde aujourd'hui. C'est une femelle, elle est née en 1995, elle a précisément 26 ans et 330 jours, soit en âge humain, vous avez une idée?
Bon, bah, 125, non?
Ou... Vous êtes pas loin, c'est 120 ans.
Alors, il ressemble à quoi, cet âge-là?
Oh, arrêtez! Bah, déjà, il est en pleine forme.
Bon,
il est un peu sourd. C'est une femelle, pardon. Elle est un peu, mais c'est pas grave. Elle est un peu sourde. Certes, mais bon, elle est en pleine forme. Est-ce que vous avez une idée de combien il faut multiplier pour l'âge humain, etc.?
6, 7, non?
Eh ben, c'est pas ça. On a souvent, on se dit souvent que c'est 7 ans, mais non, c'est une fausse idée parce qu'en fait, le chat n'a pas une croissance régulière. À 6 mois, il en a 18. Entre 2 et 10 ans, c'est un adulte. Ensuite, entre 11 et 14, c'est un senior. Et après, on dit que c'est un vieux chat. Et la moyenne, là, en gros, il faut multiplier l'âge de Flossie par 4,4, et ce qui fait 120 ans. Un chat vit en moyenne 12 à 14 ans. Certains vivent jusqu'à 20 ans. Et le plus vieux chat du monde, en 2005, avait 38 ans.
Ah
soit
oui, tout de même.
167 ans.
Elle avait votre âge, Peggy.
Oh.
Vous sortez du studio, ça se dit. Ça va, ça va, Stéphanie.
En âge de chat.
Grosse bise à Flossie et à tous ceux qui s'occupent d'elle dans son EHPAD de chat.